de la troisième partie de Japonnerie d'automne. Pierre Loti. Un clair matin d'octobre, au gai soleil levant, je pars d'Yokohama, me rendant peu importe où vers l'intérieur de l'île Nippon. Suivi d'Yves, cela va de soi. Dans nos petits chars, roulés par des hommes coureurs, nous commençons notre voyage grand train. Roulé très vite, le visage cinglé par l'air vif et froid de l'automne. Une heure durant, nous suivons le Tokaido, ou route de la mer orientale, qui est la plus grande et la plus ancienne voie de communication de l'Empire japonais. Tout le long, c'est une suite ininterrompue de boutiques, de maisons de thé, d'auberges, les unes encore pimpantes, couvertes de peintures, de lanternes, de banderoles en papier, les autres, le plus grand nombre, racornies et noirâtres, ayant un air d'extrême vieillesse. Murailles en bois, toujours, toitures très hautes, toutes en chaux mais uniformément couronnées d'une sorte de crinière verte. Une plate-bande d'herbes et de feuilles d'iris qui s'est formée d'elle-même au fait de chaque maisonnette. Autour de nous défilent des paysages très gentils, des collines boisées, des petites pagodes placées ingénieusement çà et là parmi les arbres, des ruisseaux bien frais sous des bambous. Beaucoup de monde sur cette route de la mer orientale, un va-et-vient continuel, des cris de marchands, des rires, des empressements, des rencontres de bonhommes dératés courant à toutes jambes, s'arrêtant une minute devant l'auberge pour avaler un bol de riz, une tasse de thé, puis repartant ventre à terre en sens inverse. Quelques chevaux, harnachés de pendeloques multicolores. Mais surtout des hommes coureurs, des hommes porteurs, des hommes faisant tous les métiers de force et de vitesse qui, chez nous, sont confiés à des bêtes. Les uns roulant à grande allure dans des jinrikisha, les drôles de petites dames palottes, les vilains petits monsieur japonais, d'autres plus lents, plus forts, étonnamment trapus et tout en muscles, attelés comme des bœufs à de lourdes charretées de pierre. Et des défilés de gens du peuple, portant sur des bâtons des ballots de riz, des ballots d'étoffe, des caisses de porcelaine, d'énormes potiches pour l'exportation, cheminant en cortège à dos humain, chacune emmaillotée dans un étui de paille comme nos bouteilles de champagne. Tout le mouvement, toute la vie d'une grande artère commerciale dans le plus bizarre des pays du monde. Après une première heure de voyage, nous quittons ce Tokaido pour entrer dans des campagnes tranquilles, par des sentiers où nos coureurs sont forcés de ralentir leur allure folle. Engagés maintenant dans une série de petites allées qui se succèdent toutes pareilles, nous suivons les sinuosités de ces espèces de couloirs de verdure, ayant partout et constamment notre horizon fermé par des collines boisées, dont les formes gracieuses se répètent indéfiniment, toujours semblables. Les bois sont d'un beau vert, à peine rougis, çà et là, par l'automne. Le long du sentier, toujours des rizières et des champs de mil, ou bien des vergers dont les arbres, tous d'une même essence particulière au Japon, sont chargés de fruits d'une belle couleur d'or. Plus nous avançons dans ce pays, plus cela devient calme. Après l'agitation de la grande route, plus cela devient pastoral, avec un air d'autrefois. De temps en temps, des villages nichés dans la verdure. Alentour, des gens travaillent la terre, paysans vêtus de longues robes en coton, de teinte sombre, ou bien tout nus. Hommes et femmes à grands cheveux, pareillement coiffé d'un mouchoir bleu clair, noué en fanchonnette sous le menton. Aux abords des villages, une prodigieuse quantité de bébés, accourant avec de gentils sourires, pour nous voir et nous faire déjà des révérences de cérémonie. Petite figure de chat, petite tête comique, rasée par place en manière de jardin anglais. Une plate-bande de cheveux au-dessus de chaque oreille et vers la nuque, d'autres ronds-points d'où partent des queues impayables. Toutes les petites filles, dès qu'elles ont 7 ou 8 ans, portent à cheval sur les reins un frère cadet qu'elles trimballent, secouent dans leurs jeux et leurs courses, et qui rit ou qui dort sans jamais crier. Le bébé est attaché sur le petit dos de la sœur aînée par des bandes d'étoffe, attaché si bien que les deux minois semblent appartenir au même personnage. Yves imagine, pour les désigner, cette appellation que je n'aurais pas trouvée. Des enfants à deux têtes. Devant les maisons, il y a des jardinets très soignés, entourés de haies bien taillées, bien correctes. À côté de quelques fleurs inconnues, il y pousse des dahlias comme en France, des zinnias, des marguerites reines, des roses de Bengale, plus petites que les nôtres et plus rouges, et, naturellement, des anémones du Japon. Au lieu des pommiers de nos campagnes françaises couverts à cette saison de pommes jaunes ou rouges, ici, toujours ce même arbre, le kaki, dont le feuillage ressemble à celui du néflier et dont les fruits sont d'une couleur dorée encore plus éclatante que celle des oranges. À tous les angles du chemin que nous suivons, des petits bouddhas en granit sont plantés, comme chez nous les saints et les calvaires. En général, ils sont plusieurs de compagnie, alignés bien en rang, sous un toit de bois qui les abrite de la pluie. Quelques-uns même portent des collerettes en drap rouge, des colliers de perles, des bracelets. Devant eux, des vases grossiers où trempent des fleurs. C'est un Japon tout à fait campagnard que nous traversons à présent. Beaucoup de pagodes, le moindre village en a deux ou trois, posées toujours sur des monticules à l'ombre de grands arbres. On y monte par des escaliers raides, aux marches de bois ou de granit, en passant toujours sous deux ou trois de ces portiques religieux, appelés torii, dont la forme, éternellement la même, est d'une étrangeté mystérieuse. Au milieu des rizières fauchées, des mille fauchées et encore verts, notre chemin ne monte ni ne descend. Nous sommes toujours en plaine, mais toujours resserrés entre ces mêmes collines qui nous enferment comme des murailles. Séparément, chaque petite vallée a beau être riante, fraîche, l'ensemble est inquiétant et un peu triste. À cause de cette impression que l'on a d'en laisser derrière soi tant d'autres semblables desquels il faudra ressortir par ce même et unique sentier. Elles se suivent, se croisent, s'enchevêtrent en labyrinthe et, à la longue, cela oppresse de se sentir enfoncé de plus en plus dans ce pays muré, sans horizon, sans vue. Un détour du chemin, un peu endormi que nous sommes par la monotonie du voyage et par les chaos de nos chars, nous éprouvons tout à coup une grande indignation. Dans la première minute de surprise, bien entendu, avant d'avoir eu le temps de comprendre. Devant une maison isolée, un vieux et une vieille, pour les manger sans doute, font cuire deux petites filles. Une grande cuve de bois pleine d'eau est près d'eux, posée sur un trépied, au-dessus d'un feu de branchages très clair. Dedans, ces deux petites filles, de 6 ou 8 ans, dont les têtes émergent encore et nous apparaissent à travers une légère fumée. Tout simplement, elles prennent un bain que l'on réchauffe à mesure de peur qu'elles n'attrapent un refroidissement. Mais en vérité, elles ont l'air d'avoir été mises là pour bouillir. On dirait d'une soupe aux petites filles préparée pour quelques gargantua cannibales. Et si contentes toutes deux de gambader dans l'eau tiède, et si amusé de ce que nous passons précisément à ce moment-là, faisant mille singeries à notre intention, dansant, plongeant avec un jet d'éclaboussure, ou bien se redressant, debout, comme des diablotins qui sortent d'une marmite. Et ces deux vieux nippons, grand-père et grand-mère évidemment, chevelure blanche autour de visages en parchemin, assis sur leur porte, veillant ce bouillon avec une tendre bonhomie et souriant eux-mêmes de nous voir rire. Cela fuit promptement derrière nous, cette maisonnette solitaire, cette cuisine, cette gaieté de braves gens que nous ne reverrons jamais. Et nous continuons de courir dans les rizières maintenant désertes, entre les petites montagnes, toujours pareilles, en portant de notre méprise première un souvenir très drôle qui sans doute nous amusera longtemps.